Attendez, si on est complètement honnête, le plus important dans une histoire, c'est pas l'histoire, hein, c'est la façon dont elle est racontée. J'y pense pour toutes les fois où on m'a spoilé, ou plutôt divulgaché une série, un film, un roman. Peut-être que comme moi, ça vous est arrivé de les regarder ou de les lire quand même, tout en connaissant la fin ou des éléments clés. Et je vais vous dire, le scandale, en réalité, c'est pas tant de savoir ce qui va se passer, c'est quand on se rend compte que l'histoire nous a été mal racontée. La déception vient toujours du conteur, beaucoup plus que du conte en question. D'ailleurs, je vais vous dire, des histoires qu'on me racontait quand j'étais un petit garçon, je connais vaguement les grandes lignes, mais je suis incollable sur celles et ceux qui me les ont lues, sur qui racontait bien et qui racontait mal, qui racontait bien à haute voix, en prenant son temps, avec le ton, la cadence, les silences au bon moment. C'était dans l'oralisation que se jouait tout l'intérêt d'une histoire, un petit peu comme pour une chanson. Et si les origines du conte sont parlées ou chantées, ben c'est pas un hasard. Vous vous souvenez, comme votre père, votre mère ou vos grands-parents changeaient de voix quand ils changeaient de personnage. Vous vous souvenez de leurs expressions quand ils faisaient la grand-mère ou le grand méchant loup, avec les mimiques, avec les yeux qui se plissent, les mains en forme de griffes. Vous vous souvenez surtout des béances de l'histoire, quand ils vous posaient une question, quand vous deviez participer. Encore une fois, le plus important, c'est pas l'histoire, mais la façon de la dire, de la raconter, de la partager.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui se définit elle-même comme une raconteuse. Depuis ses débuts au Québec, il y a une trentaine d'années, elle est partie à la conquête de la France avec pour seul bagage sa guitare sur le dos et une besace pleine de bons mots. L'année dernière, elle se lançait dans un projet complètement fou, réalisé 11 albums en 1111 jours. Elle en a déjà sorti 5, il lui en reste un peu plus de 2 ans pour sortir les 6 autres. Ce soir, elle sera sur la scène de l'Olympia, coup d'envoi d'une tournée dans toute la France. Bonjour Linda. Lomé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec quels contes, je me suis demandé, avec quelles histoires est-ce que vous avez grandi, vous?
Quand j'étais petite, je me rappelle qu'on faisait jouer sur un 33 tours là, l'histoire de Le Petit Prince. Et c'est avec ça qu'on s'endormait tous les soirs. Donc, les trois filles chez nous, là, parce que j'ai 2 sœurs, et on entendait cette voix-là très paisible nous raconter l'histoire du Petit Prince. C'était magnifique.
Et qu'est-ce qui faisait que c'était une histoire bien racontée pour vous?
C'est toutes les images qu'on avait en tête, c'est la poésie qui est dans cette histoire-là qui, moi, je pense peut-être, c'est drôle parce que j'avais jamais pensé à ça, peut-être que c'est la première histoire qui m'a inspiré toutes ces histoires-là par la suite.
C'est la question que j'allais vous poser, à quel moment est-ce que vous avez su vous-même que vous étiez une conteuse?
Je dirais que c'est en 6e année, j'avais un professeur de catéchèse qui m'avait dit « Ah tiens, t'as un talent, je pense, au niveau de la poésie », parce que je t'allais y montrer très naïvement un de mes premiers textes.
Vous aviez réinventé l'histoire de Jésus, Linda.
Oui, exactement.
Il ne mourrait pas à la fin, c'est ça la vraie histoire.
C'est drôle parce que souvent, à part ça, dans mes chansons, je parle de la religion, parce que c'était très présent quand j'étais jeune, puis j'ai même été sacristine, moi, dans mon premier emploi, en fait. Je travaillais dans l'église, je lavais les planchers en écoutant du Dire Straits, donc c'est vrai que cette église-là m'a servi jusqu'à un certain point, parce que c'est là que j'ai commencé à chanter dans le micro de l'église avec l'espèce de gros écho.
Mais vos premières histoires, elles parlaient de quoi quand vous étiez petite? Vous vous souvenez?
Premières histoires que j'écrivais, j'avais du mal à me comprendre moi-même. C'était un petit peu flou. Puis je dirais que les premières chansons que j'ai écrites, dans ma tête, c'était pour que Johnny Hallyday les chante. C'était ça le but, parce que je me connaissais pas de talent de chanteuse. Alors, ça racontait des petites histoires d'amour, et c'est plus tard là, que j'ai décidé d'aborder tout plein de sujets de société, tout ça, puis de me faire plaisir avec les histoires. Pour m'aider à comprendre les choses, on dirait que j'ai besoin de les écrire.
C'est intéressant, parce qu'à vous entendre, il est question de mots tout le temps. L'amour des mots, à votre avis, il est venu comment? Ça vient d'où?
C'est inné, je crois. Ça a toujours été là, c'est une vraie passion, c'est un besoin pour moi, écrire, même le geste d'écrire, même si c'est pas de la poésie, faire des listes le matin, faire des listes de choses positives de ma journée, j'aime le geste d'écrire, de remplir des pages blanches avec des mots, c'est un vrai besoin. Et si ça fait quelques mois que j'ai pas écrit de chanson, et là c'est le cas en ce moment d'ailleurs, faudrait que je m'y mette, ça me manque physiquement, je dirais.
Alors, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ces mots, vous avez choisi de les chanter justement. En quoi le chant donne-t-il d'autant plus de force aux mots?
Ben, c'est la musique qui porte les mots. Quand j'ai marié musique et paroles et poésie, ça a été une révélation pour moi. Je m'étais assise au piano, c'est drôle, parce que c'est la guitare qui est devenue mon instrument fétiche, mais on avait un piano dans la maison familiale et j'ai comme découvert que lorsque je mariais musique et paroles, il y avait un débordement d'émotions qui touchait beaucoup les gens. Donc, je me suis dit, OK, écrire de la poésie, c'est dur de communiquer cette poésie-là, mais quand on la met en musique, ça devient tellement beau et facile et émouvant.
Mais pour ça, il faut chanter juste. Est-ce que vous saviez que vous aviez une voix?
Non, vraiment pas. Puis même encore aujourd'hui, je dis à tout le monde, oh, je suis pas une vraie chanteuse. Je m'enlève cette pression-là de devoir être une bonne chanteuse, peut-être parce qu'au Québec, il y a tellement de grandes voix que je voudrais pas me sentir comme en compétition avec toutes ces belles grandes chanteuses et ces grands chanteurs-là qu'on a chez nous. Alors moi, c'est vraiment parce que j'écris des textes que je suis devenue une chanteuse.
Mais quand vous astiquiez le plancher de la sacristie, effectivement, ce qui me rappelle étrangement mon enfance en Auvergne, Linda, quand vous chantiez Dire Straits, ça faisait comment, vous vous souvenez?
Ben, je chantais pas vraiment. Je passais la mop puis je chantais dans ma tête, mais non, c'était pas. Moi, si j'avais eu la voix pour, je serais devenue, je pense, une rockeuse.
Et... c'est ça, je pensais que vous alliez me parler d'Iron Maiden, moi, tout de suite.
Oui, if you wanna. Ah, non, ça, c'est, j'adore. Fly on your way like an eagle. Mais j'ai pas la voix, donc je peux pas chanter Iron Maiden, mais si j'avais pu, avec une grosse voix rauque, j'aurais tellement aimé ça. Ça doit défouler, ça doit être merveilleux.
Mais d'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous savez, Linda Lemay, qui se trouvait à votre place il y a quelques semaines,
non,
derrière ce micro?
Non.
Bruce Dickinson, madame.
C'est vrai?
Ah ben évidemment.
Non.
Il en reste quoi de la métalleuse, somme toute, dans la musique que vous faites aujourd'hui?
Ben, il en reste des bouts de chansons. Parfois, là, je joue de la guitare, puis j'entends des mélodies que j'ai découvertes là, sur de vieux albums très rock, très métal. Et les gens pourraient pas deviner que l'inspiration vient de Iron Maiden ou de Meatloaf aussi, parce qu'il y a beaucoup de Meatloaf dans ma façon de composer de la musique, avec les gros ralentis, puis des mélodies presque exagérées, puis des build-up à n'en plus finir, des chansons qui durent 6 minutes et 7 minutes.
Quels accords il faut nous montrer?
Ah, ben là, ça dépend. C'est la façon d'orchestrer qui ressemble à ça. Puis quand je faisais « Tu t'appelles Marguerite », ça... Je t'appelle encore la voisine d'en face. C'est ça, ouais. L'espèce de build-up qu'il y a dans cette... On regardait de loin, le soleil se couchait. On riait un peu moins, on était fatigués. On disait, regarde bien, le ciel est tout rosé. On pourrait pas penser que cette chanson-là
est inspirée... C'est Bruce Dickinson.
Exactement.
Vous savez, j'ai envie qu'on continue de l'entendre, cette fougue en mélodie, en mots, en voix, en sensibilité, Linda Lemay, pêle-mêle, au hasard. Pour toutes les auditrices et tous les auditeurs de Boomerang, c'est d'abord un hymne.
Au nom de toutes les frustrées du monde entier, au nom de toutes les pauvres laissées pour compte, je vais crever les pneus de toutes les voitures aux vitres embuées et je vais couper les cheveux des grandes blondes.
Puis c'est la marmaille aussi, hein.
Mes certitudes s'écroulent, je veux de la marmaille. À moi, je veux moucher le petit nez qui coule. Je veux mettre ça en pyjama. Je veux que ça crie, je veux que ça saute, que ça brise des matelas. Et je veux que ça salisse des chaises hautes. Je veux de la marmaille. À moi,
c'est des chaussures qu'on veut pas voir.
Les souliers verts, des souliers verts à talons hauts dans le garde-robe. Une paire de souliers verts aussi suspects qu'ignobles. Je les ai regardés droit dans les semelles quand ils m'ont sauté dans la face. Et ça puait la maudite femelle qui a dû les porter rien qu'en masse. Et ce fut un interminable face-à-face. C'était entre moi et la vieille paire de godasses. Et j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux déconcertés. Et j'ai senti la sueur couler le long de ma tempe.
C'est moi et tous les maudits Français.
Ils disent qu'ils dînent quand ils soupent, et il est 2 heures quand ils déjeunent. Au petit matin, ça sent le yaourt, ils connaissent pas les œufs bacon. En fin de soirée, c'est plus choucroute, magret de canard ou escargot. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'on goûte à leur putain de tête de veau.
Et une dernière, parce qu'il faut bien choisir.
Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père.
C'est intéressant parce qu'il est présent tout le temps, votre père Alphonse, Linda Lemay, que vous avez perdu il y a 4 ans et qui est un peu à l'origine de ce nouveau projet, Il était 11 fois.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, disons que quand j'ai perdu mon papa, on s'y attendait pas du tout. C'est un cancer qui est allé très, très vite. Et puis, il s'est passé des choses exceptionnelles dans les dernières semaines. C'est qu'avec mon papa, j'ai écrit des chansons pour la première fois. Mais c'était aussi la première fois que je passais du temps seul à seul avec cet homme-là. Donc, il y avait une petite gêne qui s'était installée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on dit quand on fait face à la mort puis quand on accompagne notre papa vers cette mort-là? Alors, moi, mon réflexe, ça a été évidemment la création. Et j'ai emmené papa dans cette création-là. Et les yeux brillaient, il me donnait des rimes et tout ça. Et ça a fait des chansons qui parlaient de cette réalité-là, de la fin de vie, de la mort qui s'en venait, de comment on perçoit tout ça, de ses craintes. Donc, il y a une des chansons qui fait partie du projet qui s'appelle « Heureux mais peureux » et c'est une chanson que j'ai écrite accompagnée de mon papa.
Diriez-vous que l'écriture vous a sauvé, au fond?
Je pense que oui, parce que j'étais très timide quand j'étais jeune. Je dirais même que j'avais même pas l'impression de faire partie de ce monde-là. Je regardais les gens communiquer entre eux, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce que je pourrais ajouter, moi? C'est quoi les opinions que je pourrais, tu sais, leur dire? Je voyais pas l'intérêt. Et puis, vers 17 ans, j'ai décidé de plonger, mais j'ai plongé, je pense, beaucoup à l'aide de la poésie. C'est là que je choisissais mes mots, puis j'avais l'impression d'être plus intéressante que juste comme ça dans des conversations.
Et puis, vous êtes très sensible, on l'entend, Linda Lemay, et ça permet quand même l'écriture de mettre de la distance avec vos émotions, de la distance avec les drames,
oui,
avec ce qui se passe.
Je pense que je suis peut-être un petit peu hypersensible et c'est vrai que cette distance-là, elle me sauve peut-être, effectivement.
Dans quelle mesure, d'ailleurs, diriez-vous que les drames viennent nourrir toutes vos chansons, vous qui abordez dans ce projet aussi bien la fin de vie que les violences conjugales, l'alcoolisme, l'amour toxique et j'en passe,
oui.
Que tout se construit à partir aussi de douleurs.
De douleurs, exactement. C'est drôle. Pourquoi j'ai tendance aussi à prendre tous ces drames-là, puis à les mettre en musique, puis à les chanter, puis à les partager avec les gens? Où est-ce que ça fait du bien, ça, tu sais? Ça pourrait être lourd, et pourtant, non. Et donc, dans ce petit livre-là et dans ce film-là, je pense que j'explique un petit peu pourquoi je fais ce métier-là.
Là, c'est autant à l'auditrice qu'à la chanteuse que je m'adresse. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne chanson? Ça tient à quoi?
C'est l'émotion. Si l'émotion passe, le tour est joué. Si on a tendance à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire, puis comment ça va se terminer, puis qu'est-ce que ça nous laisse, est-ce qu'on est content d'avoir entendu ça? Donc, c'est ça une bonne chanson pour
moi. À vous entendre, c'est presque une vibration dans le corps. La première fois que vous avez su que vous aviez en vous le pouvoir de faire vibrer un public, c'était quand?
Ben, mon premier public, ça a toujours été ma famille, donc papa, maman, qui sont toujours très présents dans mes chansons. Puis je me rappelle que la première chanson que j'ai écrite, puis j'étais accompagnée de ma plus jeune sœur, Diane. On s'est levé un matin avec l'idée d'écrire une chanson. C'est venu de nulle part. Ça s'appelait « Papa, es-tu là ?» C'était sur un père qui était pas là pendant que la maman mourait. En tout cas, très, très dramatique.
Vous en souvenez ?
« Papa, 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 es-tu là ? Papa, papa, n'arrives-tu pas ? Maman est malade. Elle va bientôt mourir. »
Ouais, c'était gay, encore une fois.
Non, mais quand j'ai chanté ça à mes parents ce jour-là. Mais c'était bien écrit, par exemple. Et mes parents ont eu les larmes. Donc, c'est là que j'ai vu que, oh, avec des mots, on est capable d'aller toucher très, très loin.
Et alors vous, je crois que je sais déjà la réponse. Quel chanteur vous faisait vibrer du bout de vos doigts de pied à la pointe de vos cheveux, Linda?
Ben, une idole comme celle que j'ai eue, ça n'existe pas deux fois dans une vie, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, je suis tombée en amour avec lui quand j'ai regardé un reportage à la télévision. Il chantait « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime ». En dégoûtant, puis les filles s'arrachaient ses pantalons et tout ça. Écoute, j'ai été sous le choc.
C'est-à-dire qu'il s'adressait à vous à ce moment-là.
Voilà. Ben, clairement. Non, mais c'est drôle parce que plus tard, dans les derniers spectacles qu'il a fait au Québec, j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Il m'a tout donné, mon idole. J'ai attrapé sa serviette. Il m'a chanté le pénitencier en me dégoûtant dessus. Oh non, non, c'est merveilleux. Pour vrai, avec les accouchements de mes filles, c'est ce que j'ai vécu de plus intense. John Hallyday qui s'adresse à moi, qui me dit « Alors, mon ami est dans le public ce soir, Linda Lemay. Hey, boy, mon cœur voulait exploser. » Oh non, c'était merveilleux. Le bonheur total.
Comme vous êtes super. Qu'est-ce qui vibre là dans votre corps, justement?
Mais c'est indescriptible ce qui se passe. Mais il y a un respect de son public, cet homme-là, qui m'a toujours impressionné. Il veut tellement faire plaisir avec son talent vocal, avec son talent unique pour interpréter des chansons. Lui, il pourrait prendre un texte ordinaire et le rendre extraordinaire. Il l'a déjà fait, d'ailleurs, mais il rend tout magique.
Mais vous l'avez raconté, tout ça? Vous l'avez dit ou pas?
Bon, oui, c'est tout. Je disais, je t'aime tellement, tatata, puis lui, il me vous voyait, puis moi, je le tutoyais, c'était gênant, mais...
Mais vous parlez comme d'une passion, mais à 9 ans, qu'est-ce qu'on connaît de la passion, au fond?
J'étais très dans ma tête quand j'étais petite, puis j'observais beaucoup ce qui se passait autour de moi. Fait que je sais pas ce que je connaissais de la passion, mais je l'ai compris quand j'ai vu Johnny.
Elle était timide, la petite Linda?
Elle était très timide, très réservée, très silencieuse.
Comment est-ce que vous avez pu en venir à bout de cette timidité, justement? Comment vous êtes parvenue à prendre la confiance?
Mais c'est vraiment, je crois, avec la poésie. C'est ça qui m'a aidée à m'ouvrir.
À faire le grand écart, parce qu'il paraît que vous faites le grand écart.
Quand j'ai du plaisir, au bout des soirées, puis j'ai souvent du plaisir au bout des soirées, ben je tombe en grand écart, peu importe l'endroit. Je pourrais même le faire dans le studio ici.
Non, Linda, pourquoi? Pourquoi le grand écart?
Ah, c'est une expression de bonheur pour moi. Ouais, c'était une de mes premières fiertés, j'étais souple.
Alors. Mais vous l'avez déjà fait sur scène, le grand écart?
Oui, j'ai fait la roue latérale, le grand écart, et bientôt, j'espère que je pourrai avoir un trapèze volant sur scène. Ça serait merveilleux.
Pas le trapèze volant, s'il vous plaît. Tenir une guitare entre vos mains, ça vous donne confiance aussi?
Oui, ça me protège, on dirait. Je sais pas, je mets tout dans cette guitare-là. Mon cœur est appuyé sur cette guitare-là. D'ailleurs, j'ai déjà fait une chanson qui s'appelle « C'est que du bois ». C'est un genre d'hommage à cet instrument-là qui m'a accompagné toute ma vie, ou presque.
Qu'est-ce qui vous l'a offerte, la première guitare?
C'était le père d'un de mes premiers amoureux. Il était allé chercher ça dans un marché aux puces, puis il m'avait donné ça. C'était très difficile de jouer dessus, mais ça a été vraiment le coup de foudre. Aussitôt que j'ai su 2-3 accords, j'avais commencé à écrire des chansons sur ces 2-3 accords-là. Puis aussitôt que quelqu'un me montrait un nouvel accord, je me tenais souvent dans les bars de chansonniers et tout ça. Et j'avais des amis chansonniers qui m'enseignaient un petit peu la guitare. Comme
et
ça.
Vous l'avez encore, cette guitare, la première?
Je sais pas. Faudrait que je cherche dans le sous-sol. J'ai tellement de guitares, c'est gênant. Je les garde toutes. Je suis pas capable de revendre une guitare qui m'a servi.
Et celle que vous avez sur les genoux, là, aujourd'hui, c'est laquelle?
C'est une guitare bouchée. Donc, j'en ai 2 comme ça. Je fais mes spectacles avec ça. C'est fait au Québec. Ce sont de très, très bonnes guitares et c'est très inspirant de jouer avec ces guitares.
C'est celle-là que vous aurez ce soir à l'Olympia?
Oui, vraiment. Oui.
Ben, on va l'essayer, cette guitare, ensemble. J'ai envie que vous nous fassiez quelque chose, une surprise. Tiens, il paraît un medley, faut nous expliquer.
Ben, c'est que j'ai toujours du mal à choisir laquelle je mets devant, parce que j'ai tellement d'histoires à raconter. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit medley pour vous présenter quelques-unes des nouvelles chansons.
J'adore.
Peut-être un petit souvenir.
On vous écoute.
Allons-y.
Linda Lemay, dans Boomerang, évidemment.
La vie est une question dans une langue étrangère. On cherche la traduction, on trouve pas le dictionnaire. On se prend des religions pour s'aider à dormir. On manque de conviction, on se tue à réfléchir. Et on fredonne des psaumes et on s'écoute les geindres. Et on a mal aux paumes qu'on ne finit plus de se joindre. La vie est une question qui ressemble à « pourquoi ?» mais en beaucoup plus long. Est-ce une question de foi ? La vie est une question, la seule de l'examen. Et on se sent tous cons de n'y comprendre rien. Peu importe le crayon, on écrit des bêtises. On n'aura pas tout bon, fallait pas qu'on se divise. La vie est un problème qui n'a comme solution que le problème lui-même et que l'acceptation. La vie est un défi qui ressemble à un rêve. Et la vie s'évanouit sitôt qu'on la relève. La vie est une question plutôt mal formulée. Tant pis pour ce qu'on répond, on s'est déjà trompé. En s'y faisant de notre mieux, c'est tout ce que l'on peut faire. Alors on devient deux, alors on forme une paire. Puis on est amoureux, et puis on en est fier. Et puis on devient vieux, et puis soudain on se perd. Et puis on devient seul, et puis c'est là que l'enfer. On se le prend en pleine gueule, c'est le monde à l'envers. Je sais pas comment, maman, tu me l'as pas appris. Comment je te mets ta robe, comment je te lève du lit. Puis tes médicaments, c'est compliqué, voyons. Moi j'ai pas ça dans le sang, j'ai pas la vocation. Comment je te place les jambes pour pas que t'aies mal au dos. Quelle couverture je dois prendre pour m'assurer qu'il était chaud. Puis quand je t'apporte du jus, est-ce qu'il faut que je tienne le verre? Comment je dois faire pour que tu l'avales, pas trop de travail? Comment je t'escorte, maman, pour aller au petit coin? Comment y font les gens qui te prodiguent tes soins? Quel mur il faut que je regarde pour pas que ça t'humilie? J'suis pas une garde malade, j'suis juste ta fille. Maudit, quand je viens pas te voir, maman, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je m'en veux, maman. Pas parce que je veux pas de toi. Je sais juste pas comment te mettre ta robe, tu vois. La bleue au bouton blanc, la préférée de papa. Et sais-tu ce que je retiens de la pandémie, du confinement et tout ça? Ben, pas de visite. Je veux pas de visite. Parce que j'ai pas passé le balai. Parce que j'ai pas de liqueur au frais. Je veux pas de visite. Je veux pas leur dire comment je vais. Et puis j'ai les cheveux tout défaits. Parce que la visite, c'est comme les fourmis. Ça rentre et puis ça se multiplie. Ça revient tout le temps comme un cauchemar. Ça pense qu'on est content de les voir. Ça coupe les films en plein milieu. Ça prend le divan le plus moelleux. Ça nous condamne à la chaise droite. Ça prend racine, ça mange comme quatre. Parce que la visite, c'est pas futé. Ça fait du bruit puis ça grignote. C'est des petites bêtes bien élevées. Faut leur faire bouffer des pinottes. Mais le problème, c'est que ça s'attache, ça coûte une fortune de pistache. Et quand ça finit par partir, ça nous promet que ça va revenir. Et ça revient.
Oh là là, oh là là. Et c'est bouleversant, quelque part, ce matin, entre la déesse de la folk, Joan Baez, l'héroïne médiévale, Lady Godiva et la Jeannette, hein, la chef ten scout, débrouillarde, enthousiaste, cœur sur la main, cheveux longs, regard Saint-Laurent, sourire allumé le feu, tout en noir, la chanteuse Linda Lemay, invitée de Boomerang, pour parler de textes, de mélodies, de voix. La voix, parce qu'on l'entend, là, quel instrument est-ce que c'est pour vous? Un instrument fragile? Parce que j'ai eu peur que vous la lâchiez, votre voix, que vous pleuriez à certains moments.
Mais ça m'arrive. Ça arrive des fois où est-ce que j'ai du mal à contrôler les émotions, mais c'est quand même assez rare. On dirait que je me sens confortable dans mes chansons. Je les ai bâties, ces chansons-là, puis justement, je mets toutes mes émotions dedans, mais pas de là à ce que ça casse trop souvent. C'est arrivé peut-être une fois ou deux dans ma vie, là, où est-ce que quand papa était malade, puis que là, je me laissais surprendre par l'émotion de le plus fort, c'est mon père, des choses comme ça. Mais c'est quand même assez rare, là.
On parle pas assez, je trouve, de la fragilité de cet instrument. Vous vous êtes découvert ce qu'on appelle une béance tubaire, Linda.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
La béance tubaire, c'est très, très difficile à expliquer. C'est comme un problème au niveau de mon audition. Mais c'est pas de la surdité du tout. Disons que j'entends très bien, sauf que c'est, le son est déformé dans ma tête. Quand j'entends ma voix, c'est difficile pour moi de la marier maintenant. C'est quand même assez récent, là. C'est venu au fil des années. Mais c'est difficile de marier ce son-là de ma voix avec ce que j'entends qui vient de l'extérieur. Donc, c'est devenu un petit peu plus compliqué de faire le son sur scène pour être capable de m'abandonner à l'émotion. Et ça devient un travail un petit peu plus complexe.
Et vous sentez une incidence sur votre façon de chanter, justement?
Oui, ben d'ailleurs, en studio, j'ai du mal. On a beau essayer de faire le son, mais avec un casque d'écoute, c'est toujours plus... Mais en fait, ici, je m'entends quand même bien. Vous avez un bon...
Vous êtes sur France Inter dans Boomerang, Linda.
Voilà.
On a un très bon son, s'il vous plaît.
Et voilà, mais en tout cas, bravo.
Ça vous angoisse?
Oui, c'est sûr que ça m'angoisse parce que je voudrais pas que ça se détériore encore plus et que ça m'empêche de vivre ces beaux moments de complicité avec le public. Mais c'est sûr que, en même temps, pendant la pandémie, je me suis rendu compte aussi que même coupée de la scène, j'arrive à vivre de ma passion puis à me nourrir de cette passion-là parce que s'il me restait une seule chose à faire dans ce métier-là, je garderais le moment de la création, le moment de la magie où est-ce qu'on part de rien, qu'on s'en va là, prendre une poignée de ce qui est là dans le mystère, puis qu'on jette ça sur le papier, je mets ça dans ma guitare, puis je me laisse surprendre par les histoires qui apparaissent. Ça, c'est vraiment passionnant.
Et puis, je suppose que même techniquement, plus on travaille, plus on se donne, plus on s'en sort aussi de ce type de problème, non?
Oui, ben c'est ça. Là, au niveau de la technique, je peux encore travailler ça. Donc, peu importe la béance tubaire, je me suis rendu compte que, les retrouvailles avec le public, c'est extraordinaire, puis je retrouve mon plaisir de chanter. Donc, j'ai eu des doutes pendant que j'étais en studio. J'avais l'impression que ça changeait un petit peu ma façon de chanter, le fait que j'entendais pas de la même façon. On peut le constater en écoutant les albums, d'ailleurs, ma voix est comme un petit peu plus petite fille, je sais pas, là, il y a une différence au niveau de ma façon de chanter, mais l'émotion est toujours là, alors.
Mais Linda, quand on donne comme vous donnez, quand on donne toujours plus, avec des concerts qui durent jusqu'à 2h40, est-ce que le risque, c'est pas de se perdre parfois?
Non. Oh non, au contraire, je me retrouve moi, quand je suis sur scène, puis que je suis toujours aussi passionnée qu'à mes 23 ans. Moi, 23 ans, c'est un âge qui a été particulier parce que j'ai gagné mon premier concours de chanson, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne faire que ça dans ma vie.
Mais c'est arrivé quand même de douter, de vouloir abandonner, d'abandonner même un peu?
Abandonner? Non, j'ai jamais voulu abandonner. J'ai douté peut-être, oui, mais je doutais de tout. À la fin de ma quarantaine, début de ma cinquantaine, j'ai eu une période un petit peu plus difficile, un genre de burn-out, dépression et tout ça. Ça a été difficile parce que c'est venu aussi avec la béance tubaire, puis je me disais, mon Dieu, oui, c'est vrai, est-ce que je vais être encore capable? Donc oui, j'ai douté un petit peu, mais je suis rassurée avec les premiers spectacles qu'on a fait.
Et le goût de l'écriture, à ce moment-là, vous l'aviez perdu aussi?
Non, j'écrivais encore. Ouais, j'ai toujours écrit. Puis je pense que j'arrêterai jamais d'écrire. C'est pas quelque chose qui semble fragile chez moi. J'ai pas ce doute-là. Je sais que l'écriture va toujours faire partie de ce que je suis. Même si j'écris que pour moi un jour, ça sera pour moi, puis c'est déjà beaucoup.
Mais c'est intéressant parce que cette rupture dont vous parlez, Linda Lemay, elle arrive juste après un disque qui s'appelle « Des décibels et du silence ».
Oui.
Quel besoin est-ce que ça a été pour vous, le silence, à un moment donné?
Mais le silence, je le connais bien, puis même c'est un besoin chez moi, parce que je suis souvent dans le public et tout ça, puis je fais de la musique, puis alors des moments de silence, ils sont assez rares. Faut dire que ma plus jeune, qui a 15 ans maintenant, elle écoute de la musique, mais tout le temps, à journée longue. Donc, si jamais j'arrive, j'ai un moment de solitude, c'est très rare que je vais allumer la radio ou la télé. Ça va être le silence, je vais le savourer. Il m'aide à réfléchir.
Et qu'est-ce qu'on entend quand on écoute le silence?
Finalement, j'entends de la musique. Quand j'y pense, c'est vrai que comme souvent, ça va être des bouts de texte qui vont me venir, des pensées, de la poésie. Puis déjà dans la poésie, il y a un rythme.
On s'entend soi-même, en fait.
Ouais, ouais, c'est vrai. On s'entend penser, on entend un petit peu notre voix. Non, mais j'aime bien faire le vide. Mais je suis pas très, je médite peu. Mais j'aime faire le vide, parce que je sais qu'après ça, ça va se remplir.
On va le remplir, là, parce que j'ai envie qu'on vous entende à nouveau, qu'on vous entende chanter une chanson de Jacques Brel, la chanson des vieux amants. Pourquoi Jacques Brel? Pourquoi ce titre-là?
Parce que ça raconte quelque chose qui touche tellement plein d'amoureux. Et cette chanson-là ne perdra jamais son émotion intense.
Quelle amoureuse est-ce que vous êtes, vous?
Passionnée. Un petit peu trop.
Alors on vous écoute, Linda Lemay, la chanson des vieux amants, Jacques Brel, dans Boomerang. C'est parti.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes
mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Linda Lemay chante Jacques Brel la chanson des vieux amants qu'il chantait à l'Olympia il y a 55 ans. Quelle émotion. Linda, c'est dans Boomerang, évidemment. Merci Benjamin Troncin à la prise de son ce matin. Et à l'Olympia, vous y serez, Linda, ce soir, et puis en tournée dans toute la France, mais aussi en Suisse et en Belgique jusqu'en décembre de l'année prochaine. De Forges-les-Eaux à Bordeaux, en passant par Muret, Mâcon, Nantes ou encore le Touquet. Je précise aussi qu'un très beau livre, Il était une fois mes chansons, vient de paraître aux éditions Grund, et que les 5 premiers albums de votre projet colossal, Haute Mer, de la Rosée dans les yeux, à la croisée des humains, des milliers de plumes, et Il était 11 fois, sont disponibles. 9h40 sur France Inter, l'instant M, Sonia De Villers qui aime, comme moi, la chanson des vieux amants, Sonia.
Mais oui, mais pas 9h40,
9h39. 9h39, 00. Ça va.